Avec vous, on a entamé la semaine dernière ce partage sur les géants. On en a vu quelques-uns. J'aimerais ce matin continuer ce thème face aux géants. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre des Nombres, au chapitre 13. La semaine dernière, nous avons vu les géants devant lesquels David et ses soldats se sont retrouvés dans cette période de l'histoire du peuple. Nous avons vu ce qui représente un peu tous ces gens. Il y avait, qui s'en rappelle? Qui était là la semaine dernière? Très bien. Alors, c'était quoi le premier géant? Très bien. Le deuxième? La paresse. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Très bien. Quoi encore? La chair. Et le dernier, c'était qui? La disette. Alors, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous et le thème de mon message de ce matin, en réalité, frères et sœurs, c'est face aux géants, mais saisir la promesse. Est-ce qu'on est prêt à saisir la promesse ou on va laisser les géants nous voler la promesse que Dieu nous a faite? On lit ensemble dans le livre du Nombre au chapitre 13 à partir du verset 1, il dit le texte, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Chamois, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Jephné. Pour la tribu d'Issacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Soussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vosmi. Pour la tribu de Gad, Geuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et leur dit, « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, ce qu'il peuple et qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est un petit ou un grand nombre, ce qui est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, quel est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Ahiman, Shemaïa, Telmaï, enfant d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsona et en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chols, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée des Chols, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Canéens habitent près de la mer et long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Elle dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et alors comme des sauterelles. Amen. Quand on lit ce texte, on se rend compte quand même d'une véritable situation difficile parce qu'à un certain moment, le peuple est sorti d'Égypte, a vécu une période de traversée du désert et finalement Dieu les amène là où ils doivent prendre possession du pays. Alors il est question de savoir regarder. Est-ce qu'on regarde avec nos yeux spirituels ou est-ce qu'on regarde avec nos yeux charnels ? Et nous voyons la confrontation des deux. L'Éternel parle à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Je tire votre attention sur le fait qu'il dit « que je donne ». Quand Dieu donne, Dieu donne. Il n'y a pas de crainte à avoir. Et pourtant, la parole c'était « au présent ». Que je donne aujourd'hui. Peut-être que nos yeux, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à réaliser aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment, de recul en écoutant la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me promet aujourd'hui ? Il a dit qu'il me le donne. Mais je fais confiance à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, mes yeux physiques ne voient pas les choses, mais puisque Dieu l'a dit, je peux être confiant. Le peuple, malheureusement, n'agira pas ainsi. Et pourtant, on voit dans le texte, il envoya 12 hommes en responsabilité. Il dit le texte, tous seront des principaux. Alors j'ai pris un peu le temps, de faire un peu une recherche par rapport aux prénoms. Parce que je me dis que si des prénoms sont donnés, ce n'est pas juste pour faire joli ou pour torturer ceux qui vont lire le texte par la suite, n'est-ce pas ? Mais il y a un sens. Alors j'ai pris le prénom de chaque homme qui a été envoyé. Chamois, il veut dire « entendu par Dieu ». Shaphat, il a jugé. Jigwal, Dieu rachète. Osée, sauve. Son prénom va être changé en Josué. Donc vous voyez bien que Josué, dont on connaît les exploits, avant s'appelait Osée. C'est le seul à qui va être changé le prénom. Et pourtant, Caleb, chien. S'il y en a un à qui on aurait pu penser changer de prénom, c'est bien Caleb. Mais Dieu ne le fait pas, il a ses raisons. Palti, délivrance par Dieu. Gadiel, béni de Dieu. Gadi, mon bonheur. Amiel, où Dieu est un allié dévoué. Sétur et Nashbi, ça veut dire caché. Gawel, majesté de Dieu. Je voudrais dire par cela que parfois nous avons des noms. Nous portons des étiquettes sur nous qui en réalité ne sont pas le fond de notre cœur. Mais au moment où Dieu nous place dans le contexte, la réalité qui est au plus profond de nous ressort. Parmi ces 12 princes qui ont été envoyés faire un tour du pays pendant 40 jours, vous savez, dans la parole de Dieu, le chiffre 40 est souvent lié à l'épreuve. 40 jours, le jeûne de Jésus. Pour Moïse, ça a été 3 fois 40, n'est-ce pas ? 3 étapes de sa vie, 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert pour désapprendre l'Égypte et 40 ans pour servir Dieu. Vous avez quel âge ? On va pas tomber dans le piège de faire des rapprochements de l'âge où j'ai 40 ans. Je n'ai 80, mais si vous avez 80 ans, je vous dis, c'est le temps de rentrer au service de Dieu. Tout va bien. Mais Moïse leur donnera une fiche à remplir en leur disant, vous allez visiter le pays, allez explorer le pays, regarder le pays, ce qu'il est, le peuple, les villes, la terre, la végétation, cherchez, regardez ce que Dieu est en train de nous donner. Et ce qui a interpellé mon cœur, c'est que Moïse dira « Ayez bon courage et prenez des fruits du pays ». C'était le temps des premiers raisins. Ça veut dire que c'était une période où les vignes étaient chargées, où la nature était belle, merveilleuse. Dieu sait choisir à quel moment nous amener, non pas seulement pour que nous fassions un pas de foi, frères et sœurs, mais parce que Dieu nous montre aussi ce qu'il a prévu pour nous. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de me poser la question, pourquoi Dieu les a envoyés espionner le pays ? Je me suis dit, dans la logique des choses, quand on voit comment ça s'est tourné cette histoire, 40 jours pour visiter le pays, et après 40 ans pour en réalité ne pas rentrer à cause de leur rébellion. Ça n'aurait pas été plus facile que Dieu les emmène direct. Non ? Des fois on dit, Seigneur, je veux voir, mais je ne veux pas voir. Seigneur, je veux voir comment tu vas me sauver, mais je ne veux pas voir parce que je sais que peut-être je vais passer par des situations. Alors tu m'y conduis. Hein ? Seigneur, et des fois le Seigneur te dit, non, attends, moi je vais t'y conduire, mais tu vas marcher avec tes pieds. Oui, mais Seigneur, si tu me ramenais, je ferme les yeux et tu me réveilles quand je suis sorti de la période. Non. Tu as besoin de réaliser. Tu as besoin de voir pourquoi tu vas te battre. En réalité, la volonté de Dieu, c'était que le peuple sache exactement que la promesse de Dieu, je te ramène dans une terre où coule le lait et le miel, est une réalité. Et d'ailleurs, si vous faites attention au texte, ils diront, oui, c'est vrai, sur ce pays coule le lait et le miel. Mais, ce mais, c'est toujours un mot, je dirais, quelque peu étonnant, parce que en même temps, Dieu leur dit de prendre des fruits du pays, c'est ce qu'ils font, ils vont prendre une grappe de raisin, des grenades, des figues, mais il y a deux fruits qui vont être en réalité rapportés. Un, c'est le fruit que nous venons de décrire, le raisin, les grenades, les figues, des fruits doux, mais il y a aussi un fruit sauvage qui habite le pays, les anaks, les géants. Et la question, c'est de quel type de fruit attire notre attention ? Est-ce que nous sommes plus attirés par ce qui est bon ou par ce qui est mauvais ? Est-ce que vous avez fait une analyse dans votre manière de parler de tous les jours ? Qu'est-ce qui ressort le plus, du positif ou du négatif ? Est-ce que vous voyez plutôt ce qui est bon ou ce qui est mauvais ? C'est un peu l'histoire du verre à demi plein ou à demi-vide. Est-ce que à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, est-ce qu'on se réjouit de ce que Dieu nous donne ou est-ce qu'on se plaint de ce qu'on n'a pas encore reçu ? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Non ? Faites un test. Si seulement on avait un appareil qui comptait nos bonnes et nos mauvaises pensées. Nos bonnes et mauvaise définition des choses. Alors je ne dis pas avec ça qu'il faut cacher la réalité. La réalité, c'est la réalité. Il y avait des géants dans le pays, n'est-ce pas ? La réalité, c'est qu'il y avait encore des combats à mener, n'est-ce pas ? Mais est aussi une réalité que Dieu lui a dit, je vous donne ce pays. Amen. C'est une réalité que la promesse de Dieu d'être avec nous tous les jours de notre vie, tout lieu que votre pied foulera, je vous le donne. Vous peut-être, nous en général, on ne le réalise pas toujours. Là où vous travaillez, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu vous l'a donné ? Ouais, mais attends, c'est tellement compliqué au boulot chez moi, si tu savais. Mais est-ce que tu as déjà prié à ton boulot pendant que tu marches ? Est-ce que tu as prié en disant, Seigneur, je vais au boulot, Seigneur, le lieu où je vais, Seigneur, tu me le donnes, tu me donneras occasion de parler, de prier, d'interpeller mes collègues avec sagesse. Ah, le tout, c'est pas d'arriver avec, vous savez, les gros drapeaux, moi, chrétien, et après, on a honte de la manière où on réagit ou on agit dans certaines conditions. Mais de dire, Seigneur, fais que je puisse être un bon témoin de Jésus-Christ. Et Seigneur, le lieu où je suis, il y a une raison, je ne suis pas là par hasard. Peut-être c'est juste pour une âme. Jésus ne s'est-il pas déplacé pour un homme ? L'homme de Gadara. Qui serait allé vers l'homme de Gadara ? Je cherche une personne prête à aller voir l'homme de Gadara. Alors je vous explique le tableau. L'homme de Gadara était quelqu'un qui était possédé. Il avait fait le plein. Et le problème, c'est qu'il était tellement dans cet état-là que même s'il lui mettait des chaînes, il les brisait. Cet homme vivait là dans des lieux où on mettait des sépultures. Donc en général, c'était un lieu qui était considéré plutôt impur. Et cet homme, il était dans un tel état spirituel dans sa vie que tout le monde l'évitait et en plus, il partait en courant tout nu, dit la parole de Dieu. Mais Jésus n'a pas envoyé ses disciples, il est allé lui-même. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi de vous dire ça, mais il n'y a pas de cas désespéré pour Dieu. Il n'y a pas de cas que le Seigneur ne soit pas capable de délivrer. Il n'y a pas de personne que Dieu n'est pas capable de relever. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme à qui Dieu ne veut pas redonner de la dignité. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, ayant vu cet homme, il a pris autorité et il l'a délivré. Et les villageois, quand ils sont revenus, ils l'ont trouvé assis, habillé, parce que le Seigneur redonne de la dignité, et dans son bon sens. N'est-ce pas ? Alors quel était le désir de cet homme ? Seigneur, je veux te suivre. Et combien on dit, Seigneur, je veux te suivre ? Jésus leur dit des conditions, ils partent en courant parce que c'était trop. Alors que Jésus lui dit, non, tu ne me suivras pas, mais tu y retourneras dans ta famille. Parlez à ta famille. Après un tel miracle, la ville délivrée d'un homme de ce type-là, vous savez, c'est incroyable. J'étais, il y a 2 ans en arrière, j'ai rencontré un frère, et non pas seulement à ses dires, mais aussi au dire des frères et sœurs qui l'ont connu, quand il est arrivé dans l'église, il était comme l'homme de Gadara. Il est arrivé à l'église dans cet état-là. Et l'église, elle a prié, il a été délivré. Et dans les semaines qui ont suivi, toute sa famille s'est convertie. 35 personnes sont arrivées à l'église d'un coup. Magnifique, hein ? Mais il fallait d'abord s'occuper de l'homme, hein. Il fallait s'occuper de ce qui était dans le cœur de cet homme. Frères et sœurs, je crois que Dieu nous a donné le pays, mais ça ne veut pas dire que tout sera facile. On doit s'occuper des situations, des circonstances, des géants qui se lèvent parfois devant nous pour nous empêcher d'aller saisir ce que Dieu a déjà pris, qui en tous les cas lui appartient. Moi, je crois qu'il y a des âmes qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors, quand on fait un tour de la ville, quand on fait un tour de notre quartier, qu'est-ce qu'on voit ? Ah, Seigneur, il y a encore des poubelles qui traînent. Ah, le voisin fait ceci. Ah, l'autre fait cela. Où est-ce qu'on dit, Seigneur, touche le cœur des voisins. Seigneur, permets que je puisse donner un coup de main peut-être à cette personne. Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver les mots pour aider peut-être cette autre personne. Vous savez, on est loin d'imaginer ce qui se passe dans le cœur des uns et des autres. Et ce n'est pas parce que nous, par la grâce de Dieu, on a cette paix qui vient d'en haut, que tout le monde est en paix. Souvent, il y a de profondes blessures, de profondes tristesses. À ce retour, il y a un rappel de ce qu'ils ont trouvé. Et ce qui est parlant, c'est que parmi ces 12 princes, 10 ont fait un constat négatif. Il n'y en a que 2 qui vont faire un constat réel, qui n'est pas différent de ce que les autres ont dit, mais qui dans la déclaration de foi va être autre chose. Caleb, excusez-moi de vous rappeler la signification de son nom, le chien ramène les brebis au berger. Le texte nous dit que fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Quelle déclaration de foi pour cet homme qui croyait en Dieu. Vous savez, il faut faire attention parce que s'il y a eu parmi, excusez-moi, et je reprends l'exemple juste sur le plan spirituel, hein, qu'on se comprenne bien. S'il y a eu un homme à qui on a changé le nom en disant Christ est sauveur, Dieu est sauveur, n'est-ce pas ? Et l'autre est resté cette image un peu qu'on n'aimerait pas, qui nous colle à la peau, le chien, mais je voudrais vous dire aussi qu'il y avait des loups, et les loups dispersent les brebis. Et voilà ce qui s'est passé. Il n'est pas question, frères et sœurs, de nous installer dans un statut, dans un mode de fonctionnement, si notre foi n'est pas celle d'un conquérant. Sommes-nous conquérants par la foi ? Amen ? Est-ce que tous les matins, quand vous vous levez, vous dites, Seigneur, aujourd'hui, au moins une âme pour toi. Seigneur, je voudrais pouvoir parler au moins à une personne. Seigneur, et le jour d'après, puisqu'on a déjà goûté à une, on se dit une. Ah, sur 24 heures, c'est trop court, Seigneur, au moins deux. Au moins deux. Est-ce qu'on ose dire, Seigneur, j'aimerais parler à 5000 personnes? Oula, ça fait un peu peur. Et pourtant, qui aimerait voir un réveil d'un coup, 5000 âmes nouvelles, 5000 baptêmes? C'est plus un baptistère qu'il faut, c'est la piscine municipale, non? Oui ou non? Est-ce que vous voudrez que ça se passe? Combien vous le voulez? Au point de le déclarer? Au point de le réclamer? Au point de vous battre pour? Je voudrais juste dire quelque chose et croyez-moi, c'est pas... Je veux faire de reproches à qui que ce soit, que Dieu me garde une chose pareille. Mais je me dis qu'il faut quand même avoir, pour nos ambitions, avoir aussi le cœur pour les atteindre. Et je me dis que c'est bien le culte du dimanche matin. Moi, je me réjouis de voir l'église pleine. Mais je me dis, pourquoi pas aussi à la réunion de prière? Pourquoi ce n'est pas la même chose à la réunion d'évangélisation, voire même devoir laisser la place aux personnes nouvelles qui viennent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans notre manière de fonctionner où on a oublié qu'on fait partie de l'armée du Seigneur et peut-être qu'on raisonne un peu, armons-nous et partez. Vous connaissez? Armons-nous, partez. Je vous regarde au loin. Et si tout va bien, au moment de la victoire, je serai là avec vous. Ne vous inquiétez pas. Mais vous savez, le Seigneur est le premier qui est devant nous, hein. Je vous ai déjà parlé de cette image qui m'a interpellé alors que je voyais des bergers. Ce jour-là, j'avais lu le psaume 23. L'Éternel, je ne manquerai, il me fait... C'est bien, vous le connaissez. Dans tout ce psaume, l'image qui est donnée, alors peut-être c'est mon opinion, hein, mais vous corrigez si je me trompe, c'est que c'est l'Éternel qui me ramène vers des verts pâturages, il me conduit. Et ce jour-là, j'ai vu des brebis marcher et le berger derrière. C'était le berger qui suivait les brebis. Je me dis, Seigneur, c'est normal qu'il les perd à droite, à gauche. Encore heureusement qu'il avait un chien ou deux qui couraient pour lui, autrement je peux vous dire qu'encore il serait en train de courir. Et nous, parfois, on est dans cette attitude, Seigneur, on voudrait voir les victoires, on veut voir, Seigneur, des hommes, des femmes venir se donner à toi, Seigneur, on veut voir ce pays sauvé, on prie pour ça, alléluia. On rentre chez nous, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait demain? Attends, bon, c'est pas grave, les autres, ils vont y aller pour nous. Mais je crois qu'il faut aussi aller au bout de nos ambitions. Demandez, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Certes, vous savez, personne d'entre nous est suffisant à lui-même. Mais je crois qu'ensemble. Et en réalité, c'est pour cela que ce que Dieu voulait, c'est que le cœur du peuple entier soit donné. Ce peuple-là n'est pas rentré, n'a pas vu la terre promise, n'a pas goûté, à part ce jour-là où il a vu des raisins. Alors je vous laisse imaginer la taille du raisin. Ils ont dû le ramener avec une perche, à deux. Qui aime le raisin? Je pense que chaque truc qui faisait ça, c'était un pamplemousse, c'était pas Non, c'est autre chose. Tu veux du raisin? Oui, tu mets ça sur la table, il n'y a plus de place pour rien. Non? S'il y avait parmi nous des vignerons, ils se diraient, moi c'est ça que je veux dans ma vigne. Je serais heureux. Et pourtant, qui a vu déjà la grâce de Dieu? Avez vu déjà expérimenté l'amour de Dieu? Oui? Un peu? Est-ce que c'est bon la grâce de Dieu? Est-ce que c'est bon le pardon de Dieu? Est-ce qu'on veut continuer à le goûter, à le vivre, voire même à l'offrir autour de nous? Proposer autour de nous de dire, tiens, goûte. Je me réjouis dans les visites que je fais à chaque fois, et ce n'est pas pour ça que je vous le dis que maintenant vous allez... Hein, mais est-ce que vous avez déjà goûté ça? Non, mais je vais y goûter maintenant. Hein? Et on se dit, tiens, c'est bon, ça je ne connaissais pas. On m'a fait goûter la saladelle, par exemple. Vous connaissez la saladelle? Qui connaît la saladelle? Alors, prochaine fois qu'on fait une excursion dans la Camargue, vous allez goûter de la saladelle. Vous dites, attends, c'est pas. Oui, mais ça fait partie du pays. Ça fait partie. Alors, je ne veux pas vous faire manger que des trucs salés, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important pour nous de saisir toutes les richesses que Dieu a mises à notre disposition, toutes les occasions, toutes les circonstances. Certains, 10 hommes, dirent, mais les hommes, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils diront qu'ils étaient aux yeux des autres comme des sauterelles. Il y a parfois des géants qui se placent devant nous pour nous décourager. Peut-être que vous-même aujourd'hui, vous êtes exposé ou face à des choses qui se montrent comme des géants pour vous décourager. Il y a un oncle de ma maman qui aujourd'hui, ben, il est plus de ce monde, qui avait malheureusement une habitude qui était celle de l'alcool. Il habitait Metz et cet homme, il buvait. Buvait énormément. Moi, je me rappelle jamais l'avoir vu sans un verre dans les mains. Il éteignait une cigarette avec celle qu'il éteignait, il allumait l'autre. Donc, vous voyez un peu le. C'était un pompier, je sais pas. Et un jour, il était dans un tel état, il est rentré en courant avec peur. Et vous savez ce qui lui a fait peur? Il disait, en marchant, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Quelqu'un de plus grand que moi. En effet, cet homme, il était dans un tel état de frayeur qu'en voyant sa propre ombre, il avait peur, il courait, plus vite il courait, plus vite l'ombre le suivait. Jusqu'à arriver à la maison, et là finalement, il allume la lumière, l'ombre disparaît. Mais est-ce que parfois, on n'a pas peur de l'ombre? Et vous savez, ce principe des ombres chinoises, vous faites quelque chose de petit, mais ça dépend comme la lumière est placée. Ça peut devenir très grand. Est-ce que quelque part l'ennemi n'est pas en train de vous faire voir ou croire que l'obstacle qui est devant vous est trop grand pour vous? Et si même il était grand, combien est grand votre Dieu? Combien est grand Dieu? Qui peut me dire combien Dieu est grand? Allô? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien Dieu est grand? Pourquoi on ne peut pas le mesurer? Et alors pourquoi permettons-nous à un petit géant de nous faire craindre? J'aimerais terminer par un texte. On va le lire ensemble. Se trouve en Josué chapitre 14, versets 5 à 15. Vous vous rappelez ce petit homme, Caleb? Ah, qu'est-ce qu'il va dire Caleb de bon? Et c'est là que ça change tout, vous voyez, parce que quand même cet homme, comme il avait confiance en Dieu, il a gardé sa confiance. Combien de temps? On va le lire. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit, Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès-Barnéa, j'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force. Est-ce qu'on peut dire la même chose ? Que j'avais alors soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim, des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Chefné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Chefné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut de l'or en repos et sans guerre. C'est la différence entre remporter une bataille et gagner la guerre. Une bataille, ça peut se gagner vite. Une guerre, parfois, ça demande du temps. Et la plus grande guerre que nous avons à vaincre, frères et sœurs, c'est face à nos défaillances, nos fragilités. Caleb a mis sa confiance en l'Éternel. Et Dieu n'a pas oublié Caleb. Il avait quel âge Caleb quand il était prêt à aller se battre ? Oh ! Non, non, là. Deuxième phase. 85 ans. Qui a 85 ans ici ? S'il vous plaît, levez la main. Pas encore, bientôt. Donc tu es dans ta première jeunesse, ma sœur. C'est tôt encore. Bon, adolescence alors. Si Dieu est capable de prendre quelqu'un à 85 ans et le rendre encore un conquérant, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec chacun de nous à l'âge qu'on a ? Alors, qui est prêt à dire « Seigneur, ce que tu m'as promis, je le veux. » Et vous savez, pas seulement pour nous. Parce que nous, on pourrait se dire « Ben Seigneur, moi, j'ai déjà roulé ma bosse, j'ai avancé, j'ai fait mon petit business, tout va bien. » Mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants ? Moi, je retiens que le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Y a-t-il parfois des conflits qui continuent à toucher nos familles, nos enfants ? Et si c'était à nous de remporter une fois pour toutes la guerre, de faire fuir même les plus grands géants qui se placent devant nous ? Pourquoi ? Non pas par nos forces, mais par la force qui vient de Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un est concerné ? Est-ce que quelqu'un ce matin voudrait saisir les promesses de Dieu pour lui ? Est-ce que quelqu'un a besoin de prendre le dessus sur le découragement, sur la crainte ? Alors je voudrais vous encourager à fermer vos yeux. On va prier quelques instants ensemble. Seigneur, qui pourrait, par ses propres forces, proclamer que le terrain où il pose ses pieds, il lui appartient ? Seigneur, personne pourrait le faire par lui-même parce que cette terre, Seigneur, en réalité, n'appartient pas aux hommes, elle appartient à toi. Tu fais du monde ce que tu veux. Il y a des terres qui bougent, il y a des terres où les hommes ont voulu faire des choses et toi tu as tout détruit parce que ce n'était pas selon ton plan, Seigneur. Tu peux rendre le désert florissant comme tu peux rendre un terrain qui est florissant un désert. Qui peut, comme toi, Seigneur, décider de ce qu'il veut ? Mais Seigneur, tu as fait des promesses. Et ces promesses, elles nous concernent. Ces promesses, elles nous sont accordées par toi. Elles nous sont données, elles sont valables encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous ne voulons pas faire l'erreur, Seigneur, d'être là devant les portes, Seigneur, des promesses, Seigneur, et ne pas les saisir à cause de nos craintes, à cause peut-être de nos timidités, Seigneur, à cause de nos défauts, Seigneur, à cause de notre langage. Seigneur, garde-nous d'être un peuple qui murmure. Veille, Seigneur, sur nos lèvres. Veille sur nos cœurs, Seigneur. Seigneur, veille sur nos discussions. Seigneur, garde-nous d'utiliser, Seigneur, ton nom Seigneur, d'une manière qui n'est pas digne. Seigneur, ta parole nous dit que Caleb resta droit dans ses sentiments, dans son cœur, dans son âme. Seigneur, donne-nous d'être un peu comme Caleb. Seigneur, toi tu es le bon berger. Seigneur, nous voulons être ces brebis qui suivent le berger, en confiance. Seigneur, et même si le loup devait venir, Seigneur, tu sauras comment t'en occuper. Seigneur, même si les difficultés devaient, Seigneur, se trouver sur notre terrain, Seigneur, les promesses que tu nous as faites, Seigneur, doivent être pour nous un moteur, Seigneur, pour nous encourager à les atteindre. Seigneur, je te prie d'accorder encore à ton peuple toutes les promesses. Promesses spirituelles, mais aussi promesses matérielles. Seigneur, les promesses que tu as faites, Seigneur, aux enfants. La promesse que tu as faite, Seigneur, aux jeunes. La promesse que tu as faite, Seigneur, aux adultes, aux aînés. La promesse qui est faite aux familles. La promesse qui est faite, Seigneur, au foyer. La promesse qui est faite au couple, Seigneur. La promesse qui est faite à ton Église. La promesse qui est faite pour le peuple, Seigneur. Seigneur, tout ça, nous le réclamons, Seigneur. Parce que nous savons qu'à ta parole, nous pouvons dire oui et amen. Seigneur, peut-être qu'il faudra encore du temps et de la patience de notre part. Mais Seigneur, combien de patience tu fais preuve, toi, Seigneur, vis-à-vis de nous. Seigneur, le temps est entre tes mains. Et nous te prions, Seigneur, donne-nous d'avoir la juste vision des choses. Seigneur, aide-nous à changer notre langage, mais aide-nous surtout à changer notre cœur. Et qu'à toi soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.